C'est aujourd'hui qu'entre en vigueur le relèvement de 10% du seuil de revente à perte sur les produits alimentaires. Jusque-là, les grandes surfaces ne pouvaient vendre un produit au-dessous du prix auquel elles l'avaient acheté. À partir d'aujourd'hui, ce prix devra même être relevé de 10%. Depuis le 1er janvier déjà, les promotions sur les produits alimentaires étaient limitées. L'objectif de ces mesures décidées dans le cadre de la loi Agriculture et Alimentation, mieux rémunérer les agriculteurs. Mais quelles seront les conséquences sur le pouvoir d'achat. Bonjour Florence Janicatrice.
Bonjour Guillaume Herler.
Vous êtes professeur d'économie à l'Université de Lille et vous avez notamment publié un livre consacré à l'indice des prix à la consommation. Alors, en réaction à un article du Parisien qui estimait que la conséquence de la limitation des promotions aurait pour conséquence une hausse moyenne de 6% sur 24 produits sélectionnés. Désolé, il va y avoir beaucoup de chiffres. Didier Guillaume, le ministre de l'Agriculture, a estimé que la limitation des promotions allait augmenter le budget des familles de 50 centimes par mois. Qu'est-ce que vous en pensez?
Ben oui, c'est difficile à estimer cette question de l'augmentation du panier moyen, parce que sur un coin de table, on peut faire un calcul rapide et peut-être aboutir en statique à peu près à ce résultat si on considère effectivement que simplement 4% des produits vont être impactés sur un panier moyen de 140 €, disons.
Mais pourquoi? Parce que c'est 140 € de dépenses par mois en matière d'alimentation par personne.
Pour les ménages qui consomment dans la grande distribution, oui, parce qu'évidemment, tous les ménages ne consomment pas non plus l'ensemble de leur panier ou de leurs dépenses dans la grande distribution.
Ce qui veut dire un peu moins de 5 € de dépenses alimentaires par jour et par personne.
Oui, exactement. Et donc, tout ça va dépendre des comportements de la grande distribution. Comment va-t-elle orienter ses stratégies d'attraction de sa clientèle qui constitue vraiment son modèle économique de base? Est-ce qu'elle va baisser les prix des autres produits? Quel est son rapport de pouvoir avec les producteurs? On sait que souvent, il est tout à fait à son avantage, donc elle peut réclamer de la part des producteurs une baisse des prix pour reconstituer ses marges ou en tout cas ne pas faire de marge plus élevée que celle qu'elle faisait jusque-là. Et tout ça dépend aussi des comportements des consommateurs. Est-ce qu'ils vont arrêter de consommer les produits dont les prix des biens vont progresser? Est-ce qu'ils vont se déporter sur d'autres produits qui seraient moins chers, ce que dirait la théorie microéconomique? Ou est-ce qu'au contraire, et c'est peut-être ce qui va se passer, ils vont pas changer leur comportement parce que pour certains de ces biens, eh bien, ils les considèrent eux-mêmes comme des biens de première nécessité, pourquoi pas, ou comme des biens symboliques dont ils sont pas prêts à se départir, ou parce que c'est des consommateurs, par exemple, qu'on appelle des consommateurs captifs. Donc s'ils ne modifient pas leur comportement, ça va avoir un impact effectivement sur leur pouvoir d'achat.
Bien entendu. Florence Janicatrice, vous qui êtes professeur d'économie et qui vous êtes intéressée à l'indice du pouvoir d'achat, parce que c'est important de rappeler comment il se mesure, ce pouvoir d'achat.
Ah bien, écoutez, le pouvoir d'achat, il dépend de deux éléments, en fait. Il dépend du revenu des ménages et il dépend de l'inflation. Si l'inflation augmente, votre pouvoir d'achat diminue, mais sous réserve de l'évolution de votre revenu. Et donc, il faut vraiment tenir compte de ces deux variables avant de fournir un jugement. Alors l'idée de pouvoir d'achat, est-ce qu'elle est toujours appropriée? D'ailleurs, ça c'est une question un peu philosophique sur laquelle on pourrait s'apesantir, parce qu'on pourrait souvent parler de devoir d'achat, qui est parfois plus pertinent, il me semble. Pourquoi? Parce que ce qui caractérise la période contemporaine, c'est que une partie vraiment non négligeable de la consommation, elle est de plus en plus contrainte, ce qui est assez loin d'ailleurs de l'idée d'un consommateur qui serait souverain. Alors l'INSEE, de son côté, elle évoque plutôt l'idée de dépenses qui seraient préengagées. Elle peine à évoquer la question de la contrainte. Mais qu'est-ce que c'est ces dépenses préengagées? Ben, c'est plein de dépenses qui font l'objet de contrats, souvent pluriannuels. Votre loyer, bien sûr, dont la part du budget progresse avec les dynamiques du capitalisme financiarisé, mais aussi, par exemple, les charges, l'eau, le gaz, l'électricité, l'assurance, mais aussi les frais de cantine pour les parents. Enfin, bref, toutes les dépenses qui sont contractualisées.
Alors ça on le comprend bien, Florence Janicatrice. pardonnez-moi, mais il y a aussi toute une série de bidouillages qui du coup laissent un peu sceptique sur, non pas la rigueur, parce que ce sont des gens rigoureux à l'INSEE évidemment, mais sur les choix qui sont faits. Alors par exemple, il y a l'effet qualité. L'effet qualité, c'est si un téléphone portable qui valait 200 euros passe à 400 euros, mais il a plus de fonctions, on considère qu'il n'augmente pas. Est-ce que ça contribue pas à modérer de manière artificielle l'indice du pouvoir d'achat et donc l'inflation réelle serait supérieure à cette inflation calculée?
Répondre exactement, précisément sur le caractère artificiel, je ne suis pas certaine que c'est avec cette terminologie que je répondrai à votre question, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'inflation, donc qui est mesurée par l'évolution du prix d'un panier représentatif de la consommation des ménages, elle est vraiment suivie comme le lait sur le fait par l'INSEE. Et l'INSEE, d'ailleurs, il déploie vraiment des très très gros moyens, hein, près de 400 000 prix qui sont collectés par mois, dont la moitié dans les grandes surfaces dont on venait de parler. Alors, c'est une opération complexe, cette collecte de prix, et ce qui est complexe, c'est vraiment interpréter l'évolution des prix. Alors pourquoi, vous l'évoquiez, il y a la variation de la qualité, parce que l'idée de l'inflation, c'est vraiment de ne capter que l'évolution du prix. Parfois, on dit même l'évolution du prix pur. Et on essaie justement de neutraliser les effets de qualité. Par exemple, le fait que la baguette devienne bio, bon, bien, si l'évolution du prix, évidemment, ça ne sera pas lié à un effet prix pur, ça sera lié au fait que la baguette est sans doute de meilleure qualité, qu'un ordinateur ait des fonctionnalités supplémentaires. C'est peut-être aussi...
Et oui, ce sont des paramètres, effectivement, voilà, qu'il faut prendre en compte. Absolument. Merci beaucoup Florence. Oui. Janicatrice, je renvoie à votre très intéressant ouvrage synthétique qui s'intitule « L'indice des prix à la consommation » et il est à trouver aux éditions La Découverte.
Merci à vous.
Le matin de France Culture, 7h-9h, Guillaume Herner.
Oui, et là, il est 7h21 et ce sont les titres de la presse. Dans vos journaux aujourd'hui, ce commentaire d'Emmanuel Macron sur la situation actuelle. Emmanuel Macron a reçu quelques médias hier, c'est ce que la presse rapporte ce matin. Et le président d'évoquer, c'est-à-dire dans le journal Libération, une société, je cite, du commentaire permanent, société du commentaire permanent à laquelle il va peut-être falloir répondre, dit-il, par une société du débat permanent. Alors bon, cette dénonciation du commentaire permanent, elle renvoie à la critique traditionnelle de la démocratie, comme gouvernement de la parole, ou pour le dire autrement, la démocratie est un régime suspect parce qu'il y a trop de démocratie, de trop plein de démocratie, devenant en quelque sorte un excès à éponger. Sur le commentaire, on se souvient justement de ce que disait le philosophe George Steiner qui dénonçait une société du commentaire. En littérature, les œuvres se suffisent à elles-mêmes, disait-il. Pas la peine de s'adonner à cette manie du commentaire, puis du commentaire de commentaire. Eh bien, ces paroles résonnent aujourd'hui de manière prophétique, puisqu'avec le grand débat, voici les commentaires qui s'additionnent. Mais des commentaires, pourquoi faire si tout cela demeure verbal, ou plus exactement, si les mots ne portent pas débattre, mais encore faut-il le pouvoir dans le Figaro. Une interview du sociologue Jean-Pierre Le Goff, lequel lâche, je le cite, « Nombre de partisans d'Emmanuel Macron se montrent incapables de sortir de leur univers mental et noient la moindre objection dans une logorée qui finit par décourager l'envie même de discuter. » Alors, les partisans de La République En Marche sont-ils les seuls à être sourds aux critiques? Là, c'est moi qui pose la question. On disait jadis « Un homme de parti, c'est une partie d'homme. » Alors, parole. Est-ce une bonne ou une mauvaise chose que les paroles s'accumulent? Vous jugerez. En tout cas, la France est aujourd'hui en cure de parole. Ça se lit par exemple dans La Croix où il est question, je cite, du difficile partage de la parole publique, un partage difficile mais nécessaire selon La Croix. Comment déplorer qu'une société décide de s'entregloser si elle parvient à le faire? Alors c'est très symbolique, lit-on dans La Croix, que la parole surgisse de ces non-lieux que sont les ronds-points, c'est-à-dire de lieux où l'on ne peut habituellement pas se tenir. La parole, elle est également à lire dans l'Humanité, puisque l'UMA publie les lettres de doléances reçues depuis le début de la gronde, avec par exemple cet homme qui raconte son quotidien en disant « C'est ma vie, j'accélère sans cesse, une vie passée à accélérer au travail pour tenir les cadences, accélérer pour aller chercher les enfants, bref, accélérer, mais on ne sait même plus trop pourquoi, comme le disait Bachung, c'est comment qu'on freine ».
Pousse ton genou, j'passe la troisième. Ça cherche un circuit pour que je m'éclate. L'allume cigare, je peux contrôler.
Alors, figurez-vous qu'Alain Bachung est né le 1er décembre 1947, donc il n'y a absolument aucun anniversaire Bachung aujourd'hui, mais on avait juste envie de l'entendre.